Tipeee. Vous écoutez RFI, 13h, TU, 14h, ici à Paris, le journal.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité de ce dimanche, l'armée israélienne a l'offensive dans le sud de la bande de Gaza tout en poursuivant ses opérations dans le nord de l'enclave. Une reprise des opérations militaires qui coïncide avec de nouvelles frappes au Liban contre le Hezbollah. En Turquie, incarcération pour corruption du maire d'Istanbul qui est aussi le principal opposant au président Erdogan. Son arrestation a déclenché une vague de contestation à travers le pays. Les dernières frappes russes ont fait au moins 3 morts et 10 blessés à Kiev. À la veille des négociations prévues en Arabie Saoudite, le président ukrainien appelle ses alliés à faire pression pour mettre fin à la guerre. Le pape François est maintenant de retour au Vatican après plus de 5 semaines passées à l'hôpital pour une double pneumonie. On assiste dans le sud du Liban à l'escalade la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre dernier. Des tirs de roquettes non revendiqués vers l'État hébreu ont provoqué hier une riposte meurtrière de l'armée israélienne. Et ce dimanche, l'agence de presse libanaise rapporte une attaque de drones. Reprise des opérations militaires aussi dans la bande de Gaza. Au moins 19 morts tôt ce matin dans des frappes israéliennes dans le sud de l'enclave. Avec parmi les victimes un haut responsable politique du Hamas. Plus de précision avec Yelena Tomic.
Al-Bardawi, 66 ans, était une personnalité connue du Hamas qu'il avait rejoint dès sa fondation en 1987. Porte-parole du parti islamiste, auteur de nombreux articles sur la question palestinienne, un temps détenu par Israël en 1993, Al-Bardawi est élu en 2006 au Conseil législatif sur la liste changement et réforme du Hamas, puis devient membre de son bureau politique en 2021. Le mouvement islamiste a confirmé que Al-Bardawi et sa femme ont été tués dans une tente à Al-Mawassi, dans la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les médias proches du Hamas et des sources palestiniennes rapportent que l'attaque s'est produite dans une zone abritant des personnes déplacées, sans distinction claire, selon le ministère de la Santé de Gaza, entre combattants et civils. De sources médicales, 17 autres personnes, dont plusieurs femmes et enfants, ont été tuées lors de ces frappes.
C'était Yelena Tomic, je le disais dans les titres. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui est aussi le principal rival du président Erdogan. Sa comparution au tribunal a mobilisé hier soir encore de très nombreux manifestants et la décision du juge a toutes les chances d'attiser cette colère populaire. En France, le ministre de la Justice Gérald Darmanin l'avait annoncé. Il y a quelques jours, il disait vouloir simplifier l'expulsion des détenus étrangers vers leur pays d'origine. C'est maintenant fait dans une circulaire ministérielle où le ministre en révèle le contenu dans les colonnes du journal du dimanche. Une circulaire directement adressée au procureur et au directeur de prison, Baptiste Coulon.
Leur mission, d'après cette circulaire, repérer les détenus étrangers éligibles à une expulsion du territoire français. D'après le garde des Sceaux, la mesure est nécessaire pour désengorger les prisons françaises, car avec plus de 80 000 détenus, dont un quart d'étrangers pour 60 000 places, la surpopulation carcérale bat des records. En activant ce nouveau levier, Gérald Darmanin estime que cela réglerait le problème. Sa méthode, recourir davantage aux libérations anticipées et à la libération conditionnelle expulsion. Une mesure applicable quand un condamné étranger a déjà purgé la moitié de sa peine en France et quand il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le ministre veut aussi encourager les procédures de transfèrement pour que le détenu purge sa peine dans son pays d'origine. C'est possible pour les ressortissants européens puisqu'une décision européenne est intégrée au code de procédure pénale français. La situation se complique en revanche pour les ressortissants non européens, 5 fois plus nombreux derrière les barreaux. Cela nécessite une renégociation des conventions bilatérales avec chaque État.
C'était Baptiste Coulon. Faut-il y voir un signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris? Le président Abdelmajid Tebboune a en tout cas fait un pas en déclarant, je le cite, « Mon unique point de repère, c'est le président Macron ». Déclaration faite dans une interview accordée hier soir à la télévision nationale algérienne. Sans jamais citer le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, le président Tebboune estime que le contentieux entre les deux pays a été créé de toutes pièces. Il tient aussi à préciser qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler les problèmes. Fin de citation. La Russie fait savoir qu'elle aborde dans un état d'esprit combatif et constructif les négociations prévues demain en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. Ces négociations ont été précédées d'une attaque russe meurtrière ce matin à Kiev. Au moins 3 personnes tuées, 10 autres blessées dans cette attaque de drone contre la capitale ukrainienne. Le président Zelensky appelle ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. De son côté, la Russie, par la voix du porte-parole du Kremlin, s'attend à des négociations difficiles. Ce 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Elle se déroule sous les auspices de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, une institution des Nations Unies. Alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient sous l'effet du réchauffement, l'OMM joue un rôle essentiel, que ce soit la surveillance des conditions météo, celle du climat et celle des ressources en eau. Les données précises recueillies permettent aux États de déclencher des systèmes d'alerte et donc d'atténuer les effets des catastrophes. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alerte précoce pour tous, avec cette initiative, l'OMM entend développer ses systèmes de protection à tous les pays d'ici à 2027.
Eh oui, d'abord il y a les chiffres vertigineux. Entre 1970 et 2021, les mauvaises conditions météorologiques ont fait plus de 2 millions de morts et 4,3 milliards de dollars de pertes économiques. Avec le réchauffement climatique, vous l'avez dit Gilles, les catastrophes comme les cyclones, les inondations ou les sécheresses vont se multiplier partout sur la planète. Il est donc fondamental pour les États de se munir de systèmes d'alerte précoce. Pourtant, bien près de la moitié des pays n'ont toujours pas accès à ces systèmes vitaux. Une honte pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déplore que des vies et des moyens de subsistance soient perdus faute d'accès aux systèmes d'alerte précoce. Chaque minute, des données provenant de satellites, de ballons météorologiques ou encore de bouées océaniques parviennent au centre météo grâce à la coordination de l'OMM. Si les prévisions ont énormément progressé ces dernières années, des lacunes subsistent dans les réseaux d'observation. L'Organisation mondiale de la météorologie appelle donc les États à investir, innover et s'unir pour favoriser la coopération entre pays et ainsi sauver des vies et des biens.
Igor Strauss du service environnement, merci à vous. Le pape François est maintenant de retour au Vatican après plus de 5 semaines passées à l'hôpital pour une double pneumonie. Le souverain pontife âgé, je vous le rappelle, de 88 ans, reçoit toujours de l'oxygène par les narines. On l'a vu revenir ce matin, assis sur le siège passager d'une Fiat 500 blanche. Football, les Bleus au pied du mur après leur cuisante défaite 2-0 en Croatie jeudi en Ligue des Nations. Ils sont condamnés à l'exploit ce soir au match retour au Stade de France. France-Croatie à suivre en fil rouge sur notre antenne. Au programme aussi de cette Ligue des Nations, les matchs Espagne-Pays-Bas, Portugal-Danemark et Allemagne-Italie, tous à partir de 19h45 temps universel. Un résultat de Formule 1, coup double pour l'écurie McLaren. L'Australien Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Chine à Shanghai devant son coéquipier, le leader du championnat, le britannique Lando Norris. Et puis en tennis de table, les frères Lebrun sont bien les meilleurs français. Alexis Lebrun s'est qualifié pour la finale des championnats de France. Il rencontrera cet après-midi son frère Félix. Enfin, direction Mexico, la chanteuse Shakira est attendue pour une série de concerts. La star colombienne se produira pour le plus grand plaisir de ses fans, mais aussi celui du commerce local. Près d'un 2 million de Mexicains ont leur billet. Une aubaine pour le secteur de l'hôtellerie parmi d'autres. Charlotte Cossé.
Quatre 150 000 personnes devraient venir assister au concert de Shakira, des retombées économiques évaluées à 160 millions de dollars par la Chambre nationale de commerce. La moitié correspond à la billetterie. Viennent ensuite les dépenses de ses fans dans les logements, la restauration et les différents commerces. L'industrie du concert est particulièrement développée dans la capitale mexicaine. En plus d'un public très réceptif, la ville dispose d'infrastructures adaptées. Parmi elles, le stade René Peseguros, très populaire, est situé aux abords du circuit de Formule 1. Il accueille concerts et festivals où se produisent de grands noms. Son chiffre d'affaires a frôlé les 145 millions de dollars l'année passée pour 1,5 million de billets vendus. Et si la chanson prend, c'est aussi une question de volonté politique et de culture. Avec par exemple la vente de forfaits qui inclut transport et billets d'entrée, la ville de Mexico est également très dynamique dans le domaine. Elle finance régulièrement d'immenses concerts gratuits.
Voilà, Shakira, bientôt en concert à Mexico. C'était Charlotte Cossé. I'm gonna go to Africa.